rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une émission spéciale évidemment avec le Vendredi Saint. Et nous allons chercher un peu parmi les prophètes de la Bible quelques prophéties qui concernent la passion de Jésus. Et surtout, nous allons analyser de façon scientifique les douleurs corporelles de Jésus. Nous allons faire ça avec le docteur Barbet. Très réputé, le docteur Pierre Barbet, qui était chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph de Paris, et qui a étudié, par le Saint-Suaire de Turin, les souffrances que Jésus a pu endurer, étant donné les traces que son corps a laissées, pour ainsi dire, presque miraculeusement, je crois, sur cet objet. Et ça nous permettra de prendre une connaissance plus exacte, plus complète, des terribles souffrances corporelles de Jésus dans la Passion, et ainsi de nous unir dans un élan d'amour à ces paroles qu'il a prononcées à la fin, en particulier quand il dit au Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Vous allez voir que ça prend du courage de la part de cet homme qui est Dieu pour prononcer de telles paroles, et nous allons donc ensemble compatir aux souffrances du Christ, avec l'aide de ce fameux docteur Barbet, qui ose dire avec force à un moment donné, « J'estime qu'il faut avoir une vertu héroïque, ou ne pas comprendre, qu'on doit être un saint ou un inconscient, pour faire un chemin de croix, il dit, moi je ne peux plus. » Tellement c'est terrible. Et c'est pourtant ce chemin de croix qu'on va faire ensemble, si vous voulez bien, en nous unissant dans l'amour à Jésus et à son Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Jésus, venez à notre aide. Vous les avez supportées, ces souffrances, et faites que nous sachions tous ensemble à la fois les expliquer et les bien comprendre. Je me permets de dire avec le docteur Barbet que si il m'arrive de sangloter avant la fin, mais faites comme moi, sans honte. C'est simplement que vous aurez compris. En fait, c'est à Gethsémani, devant Jérusalem, sur la colline, là, que va commencer l'holocauste d'amour. Et il dit, Père, si vous voulez éloigner de moi ce calice, vous vous souvenez de ses paroles au jardin de Gethsémani? C'est bien son humanité qui parle et qui se soumet. L'homme, Jésus, est dans une impasse. Ses trois fidèles sont endormis, vous savez. Ce sont de pauvres hommes qui n'arrivent pas à veiller avec lui. Et la lutte est épouvantable. On dit qu'un ange est venu le réconforter. Et là, se trouvant en agonie, il prie plus instamment, puis sa sueur devient comme des gouttes de sang qui roulent jusqu'à terre. C'est ce que nous raconte Saint-Luc au chapitre 22. Oui, c'est la sueur de sang. Et on peut remarquer que c'est le seul évangéliste, Saint-Luc, qui rapporte le fait. C'est un médecin, Saint-Luc. C'est dit, ça, dans l'Épître de Saint-Paul aux Colossiens, quand Saint-Paul l'appelle le médecin très aimé. Et Saint-Luc le fait avec la précision, la concision d'un bon clinicien. On appelle ça l'hématidrose. C'est un phénomène très rare, mais c'est très bien décrit par des savants. Ça se produit dans des conditions tout à fait spéciales. J'explique parce que souvent on lit ça et on se dit c'est pas possible, des sueurs de sang. Eh bien, une grande débilité physique, là, fatigue énorme, accompagnée d'un ébranlement moral, suite à une émotion profonde, d'une grande peur, ça peut susciter cela et ça le suscite. La frayeur, l'épouvante sont ici au maximum, puis l'ébranlement moral aussi. Et la sueur devient, dit le texte de l'Évangile, comme des gouttes de sang qui roulent jusque par terre, hein. Voici donc Judas et les valets du temple. Ils sont armés de glaives et de bâtons. Ils ont des lanternes et des cordes. Et comme le procès criminel doit être jugé par le procurateur, ils ont obtenu un peloton de cohorte romaine. Et une bande qui hurle un peu s'est ressaisie, elle a garrotté le Christ. Et elle l'amène, elle laisse filer les comparses de Jésus, c'est ce qu'ils s'imaginent, eux. C'est l'abandon, tout au moins apparent. Mais Jésus sait bien que Pierre et Jean le suivent de loin, et que Marc, lui, va en échapper à l'arrestation qu'en s'enfuyant tout nu, il va laisser aux gardes le drap qui l'enveloppait. Il est dit dans le prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament, « Voici que le Seigneur de l'univers déclare « Épée attaque le berger dont j'ai fait mon associé, tue le berger, alors les moutons partiront de tous côtés et j'attaquerai les petits troupeaux. » Mais les voici devant Caïphe et le Sanhédrin, nous sommes en pleine nuit. Il ne peut s'agir que d'une instruction préalable, Jésus refuse de répondre. Sa doctrine, bien, il l'a prêché ouvertement, il n'a pas besoin de répondre. Et Caïphe est désorienté, il est furieux. Et l'un de ses gardes, enragé, donne une grande gifle à la figure de Jésus. « Est-ce ainsi que tu réponds, grand prêtre? » Et ceci n'est rien, il faut attendre le matin pour une audition de témoin. Jésus est entraîné hors de la salle et dans la cour, il voit Pierre qui l'a renié par trois fois. Et d'un regard, il lui pardonne. Puis là, on le traîne dans quelques salles basses, la canaille des valets va s'en donner à cœur joie hein, contre ce faux prophète. On l'accable de gifles et de coups de poing. On lui crache au visage. Et puisqu'aussi bien il n'y a pas moyen de dormir, on va s'amuser un peu. Alors un voile sur sa tête. Chacun y va de son coup. Les soufflets retentissent et ses brutes ont la main lourde. Et ils lui disent, prophétise, dis-nous, Christ, qui t'a frappé? Et son corps est déjà tout endolori. Sa tête sonne comme une cloche. Il y a des vertiges qu'il prenne. Mais Jésus se tait. D'un mot, évidemment, il pourrait les anéantir. Et dans Isaïe, au chapitre 53, il est écrit « Il n'a pas ouvert la bouche. » Et cette racaille finit par se lasser, puis Jésus attend, puis au petit jour, là, c'est la deuxième audience. C'est un défilé lamentable de faux témoins, puis même prédit dans la Bible. Des faux témoins qui ne prouvent rien. Il faut qu'il se condamne lui-même, en affirmant sa filiation divine, évidemment ce blasphème épouvantable, et ce pauvre Caïphe proclame le blasphème, lui en déchirant ses vêtements. Il n'y a plus qu'à obtenir de Rome la condamnation à mort, qu'elle s'est réservée là, dans ce pays conquis qu'est la Palestine. Et Jésus, déjà harassé là, de fatigue, il va être traîné à l'autre bout de Jérusalem, dans la ville haute, à la tour Antonia, une sorte de citadelle. Hein? Vous connaissez ça peut-être si vous êtes allé à Jérusalem. On voit ça dans des images et aussi des maquettes. Hein? Et là, la majesté romaine assure l'ordre dans la cité de Jérusalem, qui est trop effervescente à son gré. Il y a des révolutionnaires un peu, là. Ils sont pas très assujettis, c'est... Donc, conquis les Juifs et la gloire de Rome est représentée par un malheureux fonctionnaire, un petit Romain de la classe des chevaliers, un parvenu, quoi, qui est trop heureux d'exercer ce commandement difficile sur un peuple hostile. Pilate, c'est Pilate son nom. Et Pilate est très soucieux de garder sa place. Il est coincé entre les ordres, évidemment impératifs, de Rome, la métropole, puis les menées de ces Juifs, souvent très bien placés auprès des empereurs. En résumé, c'est un pauvre homme, et il n'a qu'une religion, s'il y en a une, et c'est celle du divin César, hein, le divin empereur. C'est le produit médiocre d'une civilisation qui ressemble à la nôtre, la civilisation romaine du temple, c'est une civilisation de la culture matérialiste. Mais comment trop lui en vouloir? Il est ce qu'on l'a fait, finalement. La vie d'un homme a pour lui peu de prix. Ça compte pas. Dans ce temps-là, surtout. Puis aujourd'hui, est-ce que ça compte, la vie d'un homme? Surtout si l'homme n'est pas un citoyen romain. La pitié n'a pas été enseignée à Pilate. Il ne connaît qu'un devoir, c'est maintenir l'ordre. Pourtant, Jésus... Et dans quel état paraît-il devant lui, couvert d'échymoses et de crachats? Eh bien, Jésus lui en impose. Et il lui est sympathique même. Il va faire tout ce qu'il peut pour le tirer des griffes de ces gens qui veulent sa mort. Jésus est galiléen. Alors passons-le à cette vieille canarde d'Hérode qui s'amuse à jouer comme un petit roitelet qui se prend pour quelqu'un. Mais Jésus méprise Hérode, ne lui répond rien. Le voici revenu avec la foule qui hurle. C'est odieux tout ce qui se passe. Alors, tous les Juifs restent dehors, hein, puisqu'aussi bien ils se croiraient souillés, rien qu'à entrer dans un prétoire romain. Hein, c'est ce que pense d'ailleurs Ponce Pilate, il est au courant. Et Pilate interroge ce pauvre homme qui l'intéresse, Jésus. Et Jésus ne le méprise pas, hein, il a pitié de son ignorance. Il lui répond avec douceur et tente même de l'instruire. Jean Guiton m'a donné un très beau Pilate comme ça, qui dit à Jésus, « Mais qui donc es-tu ?» C'est très beau, cette œuvre de Jean Guiton. Les soldats de garde amènent donc Jésus dans l'atrium du prétoire, appellent à la rescousse toute la cohorte, les distractions sont rares dans ce pays d'occupation, et puis, ils le déshabillent, ils l'attachent tout nu à une colonne de l'atrium, les bras sont tirés en l'air, les poignets liés en haut, le Christ est attaché comme ça, Jésus. Et la flagellation se fait avec des lanières multiples, hein, sur lesquelles sont fixées à quelque distance de l'extrémité libre là, deux balles de plomb ou des osselets. C'est un peu comme des petites haltères. C'est à ce genre de flagrum que répondent les stigmates que l'on peut contempler sur le linceul. Et le nombre de coups est fixé à 39 par la loi mosaïque, mais les bourreaux sont des légionnaires déchaînés, puis ils iront jusqu'aux limites de la syncope. Et en fait, les traces du linceul sont innombrables et presque toutes sur la face postérieure, au dos. Et sur les jambes. Le devant du corps est contre la colonne. Alors on voit les traces sur les épaules, sur le dos, sur les reins. Les coups de fouet descendent sur les cuisses, sur les mollets. Et là, l'extrémité des lanières, au-delà des balles de plomb, encercle le membre, là, puis ça vient marquer le corps jusque sur le devant. Hein. On a tout ça sur le Saint-Suaire. Et Isaïe en parle. Dans le chapitre 50, il dit « J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. » Alors les bourreaux, lors de la flagellation de Jésus, sont deux. On peut voir par le Saint-Suaire qu'il y en a un de chaque côté, de taille inégale. Pas de la même grandeur. Ça se déduit, ça, de l'orientation des traces des coups sur le linceul. Et ces deux bourreaux frappent, comme on dit, à coups redoublés. Au premier coup, les lanières laissent de longues traces. Des traces livides. De longs bleus d'échymose sous-cutanée. Rappelez-vous que la peau a été déjà modifiée, endolorie par les millions de petites hémorragies là, qui se sont faites sous la peau, la sueur de sang au jardin de Gethsémani dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les balles de plomb marquent évidemment davantage. Puis la peau de notre Seigneur, là, infiltrée de sang, attendrie, se fend sous de nouveaux coups et puis... Le sang jaillit, il y a des lambeaux qui se détachent et qui pendent. Et toute la face arrière de Jésus n'est plus qu'une surface rouge, sur laquelle se détachent de grands sillons, comme marbrés. Et ça et là, partout, les plaies plus profondes sont dues aux balles de plomb, aux petites haltères. Ce sont ces plaies... En forme d'altère, là, les deux balles et la lanière entre les deux qui s'impriment sur le linceul lors de l'ensevelissement. À chaque coup, le corps de Jésus tressaille d'un soubresaut douloureux. Mais il n'a pas ouvert la bouche, puis ce mutisme redouble la rage presque satanique de ses bourreaux, hein. Ce n'est plus une exécution froide là, d'un ordre judiciaire. C'est une espèce de déchaînement. Ils n'observent absolument pas la loi. Des vrais démons. Le sang ruisselle des épaules jusqu'à terre. Les larges dalles sont couvertes de sang. Et puis, revolent aussi, en pluie, à partir des fouets, le sang de Jésus. Le sang revole jusque sur les vêtements des plus proches spectateurs. Mais bientôt, les forces de ce supplicié défaillent. Une sueur froide inonde le front de Jésus. La tête lui tourne d'un vertige. Et puis, il y a des frissons qui lui courent le long de l'échine. Ses jambes se dérobent sous lui, puis... S'il n'était pas attaché là par les poignets, il s'écroulerait dans la mare de sang. Et après tout, on n'a pas reçu l'ordre de le tuer sous le fouet, alors on va le laisser se remettre. Et ces gens abominables pourront alors s'amuser encore. Il y a un grand nigaud qui prétend qu'il est roi. Oui, ce grand nigaud de Jésus prétend qu'il est roi. Et roi des Juifs encore. Comble de ridicule. Alors vite, un manteau, un sceptre. On l'a assis sur une base de colonne, pas très solide, la majesté, n'est-ce pas? Et alors une vieille chlamyde, le vêtement des soldats, une chlamyde de légionnaire, rouge, sur les épaules nues, lui confère la pourpre royale. On met un gros roseau dans sa main droite. Ce serait tout à fait ça, oui. S'il manquait une couronne, il faut trouver une couronne, quelque chose d'original, là. Et dans moins de 19 siècles après ce martyr abominable, cette couronne le fera reconnaître, cette couronne qu'aucun crucifié n'a portée. On s'amusait pas à couronner n'importe qui. Seul Jésus, peut-on croire, a été couronné. Et c'est sur le linceul, et dans un coin, là, il y a un fagot de ces arbrisseaux, là, qui pousse un peu partout dans les buissons de la banlieue de Jérusalem. C'est souple, ça porte de longues épines, très longues, beaucoup plus longues, plus aiguës, plus dures que l'acacia. Et on en tresse avec précaution une espèce de fond de panier, si vous voulez. Puis c'est une espèce de casque qu'on applique à Jésus sur le crâne. Puis on en rabat les bords et avec un bandeau de joncs tordus, on en serre la tête entre la nuque et le front. Ce bandeau de joncs tordus est conservé à Notre-Dame de Paris. Les épines pénètrent dans le cuir chevelu. Et ça saigne, évidemment. Ça saigne, cuir chevelu. Et déjà, le crâne est tout englué de caillots et de longs ruisseaux de sang coulés sur le front. On les a sur le linceul. Ça coule sous le bandeau de joncs. Et ça a tout inondé les longs cheveux de Jésus, qui sont tout emmêlés. Ça a rempli sa barbe. Et la comédie d'adoration va commencer, là. Chacun, à tour de rôle, vient fléchir le genou devant lui, avec une affreuse grimace suivie d'une grande claque à la figure. « Salut, roi des Juifs !» Mais lui, il répond rien. Et sa pauvre figure ravagée et pâlie n'a pas un mouvement. Alors ils sont exaspérés. Alors ils font semblant d'être de fidèles sujets, puis lui crachent au visage. Tu ne sais pas tenir ton sceptre. Donne. Et pend un grand coup sur son espèce de chapeau d'épines, sur sa couronne qui s'enfonce un peu plus. Je vois. On voit ça sur le linceul. Voit à présent un grand coup de bâton donné obliquement, Ça a laissé sur la joue une plaie terrible. Et puis, son nez, si mythique, là, si noble, est déformé par une fracture à l'arête cartilagineuse. Et le sang coule, le sang coule de ses narines. Ça tombe dans ses moustaches. Oh, assez, mon Dieu. C'est Isaïe qui dit au chapitre 52, la plupart, en le voyant, ont été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. Mais voici que vient Pilate, un peu inquiet du prisonnier. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire, ces brutes? Oh, c'est terrible. Alors, si ces quelques juifs ne sont pas contents, je vais le leur montrer. Alors, il va le leur montrer au balcon du prétoire, dans sa tenue pseudo-royale. Il est tout étonné lui-même de ressentir quelque pitié, ce Pilate, pour cette loque humaine. Mais il a compté sans la haine de ces quelques juifs qui crient « Enlevez-le, crucifiez-le !» L'argument terrible pour Pilate, ce Jésus s'est fait roi. Alors si tu l'absous, tu n'es pas l'ami de César. Alors finalement, Pilate regrette et l'abandonne, se lave les mains. Alors on arrache la chlamyde de Jésus, qui a déjà collé à toutes ses blessures et le sang recoule. Ça recommence. Il a un grand frisson, alors on lui remet ses vêtements qui se teintent de rouge. Et la croix est prête, on la lui charge sur les épaules, et par quel miracle d'énergie peut-il arriver à rester debout sous ce fardeau épouvantable? Ce n'est en réalité, vous le savez, c'est pas toute la croix, c'est seulement la grosse poutre horizontale qu'on appelle le patibulum, qu'il doit porter jusqu'au Golgotha, on en voit la marque sur le linceul. Mais cela pèse encore près de 50 kilos, disons 100 livres. Le pieu vertical, lui, le stipet, s'est déjà planté au calvaire. Et la marche commence, pieds nus dans les rues, au sol raboteux, semé de cailloux, et les soldats tirent sur les cordes qui le lient, soucieux de savoir s'il ira jusqu'au bout. Et deux voleurs le suivent, avec chacun une poutre. La route, heureusement, n'est pas très longue, et d'environ 600 mètres. Un peu plus d'un demi-kilomètre, quoi. Et la colline du calvaire est presque en dehors de la porte d'Éphraïm, de Jérusalem. Mais le trajet est très accidenté, même à l'intérieur des remparts. Jésus, péniblement, il met un pied devant l'autre, et puis souvent, il tombe. On voit ça dans les hauts chemins de croix. Il s'effondre. Il tombe sur ses genoux, sont marqués, qui sont bientôt qu'une plaie, évidemment. Les soldats d'escorte le relèvent, sans trop le brutaliser. Ils sentent qu'il pourrait très bien mourir en route, et ils ne veulent pas, hein. Et toujours cette poutre en équilibre sur l'épaule, qui l'a meurtri de ses aspérités, et qui, sans vouloir y pénétrer de force, et son épaule est couverte de plaies qui se rouvrent et qui s'élargissent et se creusent à chaque pas. Puis, il est épuisé. Il tombe encore, et cette fois de tout son long. Et la poutre lui échappe, et va-t-il pouvoir se relever? Heureusement vient à passer un homme qui revient des champs, là, c'est Simon de Cyrène que vous connaissez, hein, qui tout comme ses fils Alexandre et Rufus sera bientôt un bon chrétien. Et les soldats le réquisitionnent là, pour porter cette poutre. Il ne demande pas mieux, le brave homme, oh mon Dieu, comme nous tous, hein, il me semble, nous aurions fait comme lui, nous aimerions tellement être saint Simon de Cyrène. Il n'y a plus finalement que la pente du Golgotha à gravir, et péniblement on arrive au sommet, et Jésus s'affaisse sur le sol, et là, la crucifixion va commencer. Les bourreaux savent leur métier. Il faut d'abord le mettre à nu. À nu, complètement nu. Les vêtements de dessus, c'est encore facile, mais la tunique, intimement, là, est collée. Oui, collée encore à ses plaies. Pour ainsi dire, à tout son corps. Et ce dépouillement, auquel on ne pense à peu près jamais, on dit le dépouillement, c'est simplement atroce. Avez-vous jamais enlevé un premier pansement qui est mis sur une plaie, une large plaie desséchée, là? Ça fait mal, hein? Mais chaque fil de laine est collé à la surface dénudée de Jésus. Et quand on le soulève, eh bien, il arrache une des innombrables, disons, terminaisons nerveuses qui est mise à nu dans la plaie. Et ces milliers de chocs douloureux s'additionnent, se multiplient, chacun augmentant pour la suite la sensibilité du système nerveux de Jésus. Alors, il s'agit pas ici d'une lésion locale, mais de presque toute la surface du corps, et surtout de ce dos lamentable. Les bourreaux pressés, ils vont rudement. Peut-être que c'est mieux comme ça d'un seul coup. Mais comment cette douleur aiguë, atroce, n'entre-t-elle pas la syncope de notre Seigneur? Comme il est évident que d'un bout à l'autre, Jésus domine. On pourrait dire il dirige sa passion. C'est bien dit au psaume 22, mes adversaires me regardent fixement. Ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mes vêtements. Le sang ruisselle à nouveau. On l'étend sur le dos. Est-ce qu'on lui a laissé la petite ceinture très étroite là, que la pudeur des Juifs conserve aux suppliciés? On ne sait pas, mais il paraît que non. De toute façon, dans tous les cas, dans son linceul, il est nu dans le linceul. Totalement nu, notre Seigneur. Les plaies de son dos, des cuisses et des mollets s'incrustent de poussière. On l'a mis au pied du stipes, du pieu, et les épaules couchées sur le patibulum qui l'a transporté. Les bourreaux prennent les mesures. Un coup de tarrière, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour amorcer les trous des clous. Hein? Puis l'horrible chose commence. Je m'excuse de vous dire tout ça, mais c'est vrai. Il faut qu'on le sache. Jusqu'où son amour est allé. Un aide allonge un des bras. Et là, la paume en haut, là. Le bourreau prend son clou, c'est un long clou pointu et carré, hein, qui prête sa grosse tête et est large de 8 mm. Là, il le pique sur le poignet, dans ce pli antérieur là, qu'il connaît d'expérience, on appelle ça l'espace de Desto, et un seul coup de son gros marteau, là, le clou est déjà fiché dans le bois, où quelques coups énergiques le fixent solidement, et Jésus n'a pas crié, mais son visage horriblement s'est contracté, mais surtout... Le docteur Barbet dit bien, j'ai vu au même instant son pouce d'un mouvement violent, impérieux, se mettre dans sa paume. C'est son nerf médian qui a été touché. Mais alors, je ressens ce qu'il a éprouvé. Une douleur indicible, fulgurante, qui s'est éparpillée dans ses doigts, a jailli comme un trait de feu jusqu'à son épaule et éclaté dans son cerveau. Et c'est la douleur la plus insupportable qu'un homme puisse éprouver. Celle que donne la blessure des gros troncs nerveux. Presque toujours, elle entraîne la syncope. Et c'est heureux. Jésus n'a pas voulu perdre sa connaissance. Encore si le nerf était entièrement coupé. Mais non, il n'est que partiellement détruit. Et la plaie du tronc nerveux reste en contact avec ce clou. Et sur lui, tout à l'heure, quand le corps sera suspendu, il sera fortement tendu comme une corde à violon sur son chevalet. Et... il vibrera à chaque secousse, à chaque mouvement, réveillant la douleur horrible. Il en a pour 3 heures. Et l'autre bras est tiré par l'aide. Les mêmes gestes se répètent et les mêmes douleurs. Alors allons, debout. Le bourreau et son aide empoignent les bouts de la poutre, le patibulum, et redressent le condamné, assis d'abord, et puis debout, et puis le reculant, l'adosse au poteau, mais c'est hélas, en tiraillant sur ses deux mains clouées, oh, ses poignets puis ses médians, là, et d'un grand effort à bout de bras, mais le stipes n'est pas très haut, hein. Rapidement, car c'est bien lourd, ils accrochent d'un geste adroit le patibulum en haut du stipes, qui est comme pointu, et à son sommet, deux clous fixent l'enseigne, là, le titulus, là, qui est en 3 langues, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le corps, tirant sur les bras qui s'allongent, obliques, c'est un peu affaissé, évidemment. Les épaules blessées par les fouets puis par le portement de croix ont raclé le bois rude, c'était douloureux. Et la nuque qui dominait le patibulum l'a heurté en passant pour s'arrêter en haut du pieu. Alors, les pointes acérées de la grande couronne d'épines, ce grand casque, ont déchiré le crâne encore plus profondément. Et sa pauvre tête penche en avant, car l'épaisseur de sa couronne l'empêche de reposer sur le bois. Et chaque fois qu'il la redresse, il en réveille les piqûres. Le corps, pendant, n'est soutenu que par les clous plantés dans les deux poignets. Il pourrait tenir sans rien d'autre. Le corps ne se déplace pas en avant. Mais la règle est de fixer les pieds. Pour ça, pas besoin de console, on met pas un petit... comme sur nos crucifix, là. On fléchit les genoux et l'on étend les pieds à plat sur le bois du pieu, du stipes. Pourquoi? Puisque c'est inutile donner à faire quelque chose au charpentier, peut-être. Bon, inutile. Hein? Ce n'est pas pour soulager la souffrance du crucifié. Alors là, le pied gauche à plat sur la croix et... l'aide fléchit aussi l'autre genou, ils sont deux. Puis le bourreau, lui, il ramène le pied gauche devant le droit que son aide tient à plat. D'un coup, il perfore ses pieds. Oh, cela est facile pour eux. Et puis à grand coup, le clou est poussé dans le bois. Ici, merci, mon Dieu. Rien qu'une douleur bien banale. Mais le supplice a à peine commencé et à deux hommes, tout le travail n'a guère duré que... plus de 2 minutes. Et les plaies ont fort peu saigné, alors on s'affaire auprès des deux voleurs. Et pour ceux-là, ben, les cordes suffisent et les 3 gibets sont garnis face à Jérusalem. Là. N'écoutons pas ceux qui insultent à sa douleur. Il leur a déjà pardonné car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus d'abord s'est affaissé et après tant de tortures... pour un corps épuisé, là, cette immobilité semble presque un repos, quoi. Ça coïncide avec une baisse de son tonus vital, mais il a soif. Au psaume 69, il est bien dit, « Je cherche quelqu'un qui me console, mais je ne trouve personne. Personne. Dans ma nourriture, ils ont mis du poison, et quand j'ai soif, ils m'offrent du vinaigre. » Ah, il n'a pas encore dit... Il n'a pas encore dit qu'il avait soif avant de se coucher sur la poutre. Il a refusé la potion un peu empoisonnée, analgésique, du vin mêlé de myrrhe et de fiel que préparent les femmes charitables de Jérusalem. Il a soif, oui. Ma langue a adhéré à mon palais, c'est ce qu'on lit au psaume 21. Il n'a rien bu ni rien mangé depuis hier soir, puis il est midi, puis sa sueur... de Gethsémani, les sueurs de sang, toutes ces fatigues, la grosse hémorragie du prétoire, puis les autres, et même ce peu qui coule de ses plaies, tout cela lui a soustrait une bonne partie de sa masse sanguine. Il a soif. Ses traits sont tirés, sa figure hâve et sillonnée de sang qui se coagule partout, et dans cette face suméfiée, toute sanglante et déformée, comment pourrait-on reconnaître le plus beau des enfants des hommes? Au psaume 21, on dit bien « Je suis un ver de terre et non un homme ». Elle serait affreuse, sa face, si l'on y voyait pas malgré tout resplendir la majesté sereine de Dieu. Regardez la sainte face si vous l'avez chez vous, contemplez-la, aimez-le. Au bout d'un moment, un phénomène étrange se produit. Les muscles de ses bras se raidissent d'eux-mêmes en une contracture, comme dit le docteur Barbet, qui ira s'accentuant. Ses biceps sont tendus et saillants, ses doigts s'incurvent en crochets, il y a des crampes. Vous avez tous probablement senti cette douleur progressive et aiguë là, dans un mollet ou entre deux côtes, un peu partout. Ça nous arrive des fois. Il faut, tout à fait cessante, détendre en l'allongeant ce muscle contracté. Mais regardons, voici maintenant aux cuisses et aux jambes, Jésus, les mêmes saillies monstrueuses, rigides, et les orteils qui se recourbent, il a mal. On dirait un blessé atteint de tétanos en proie à ces horribles crises que l'on ne peut pas oublier. C'est ce que nous appelons la tétanie quand les crampes se généralisent, et voici que c'est fait. Et les muscles du ventre se raidissent en vagues figées, c'est Jésus. Puis les intercostaux, puis les muscles du cou... et les muscles respiratoires, et son souffle peu à peu est devenu plus court, superficiel. Ses côtes, déjà soulevées par la traction des bras, se sont encore surélevées, et ceux de l'estomac se creusent, et l'air entre en sifflant, mais ne sort presque plus, il respire tout en haut, il inspire un peu, ne peut plus expirer, il a soif d'air. C'est comme quelqu'un en pleine crise d'asthme, et sa figure pâle a peu à peu rougi, Elle a passé au violet pourpre et puis au bleu. Il asphyxie. Ses poumons gorgés d'air ne peuvent plus se vider. Son front est couvert de sueur. Ses yeux exorbités chavirent. Quelle atroce douleur. Quelle atroce douleur doit marteler son crâne. Oh, doux Jésus. Il va mourir. Oh, eh bien, tant mieux. N'y a-t-il donc pas assez souffert? Ni la soif, ni l'hémorragie, ni l'asphyxie, ni la douleur n'auront raison de Dieu, notre Sauveur. Et s'il meurt avec ses symptômes, il ne mourra vraiment que parce qu'il le veut bien. Et que se passe-t-il donc? Lentement, d'un effort surhumain, il a pris point d'appui sur le clou de ses pieds, puis sur ses plaies, et le corps, par à-coups, remonte, soulageant la traction des bras. Oh, cette traction qui était de plus de 90 kilos sur chaque main. Et alors, voici que de lui-même, le phénomène diminue. La tétanie régresse. Les muscles se détendent, tout au moins ceux de la poitrine. La respiration devient plus ample. Il redescend et les poumons se dégorgent et bientôt la figure a repris sa pâleur d'avant. Pourquoi tout cet effort? C'est qu'il veut nous parler. Père, pardonnez-le. Oh oui, qu'il nous pardonne à nous, qui sommes ses bourreaux, chaque jour. Mais au bout d'un instant, son corps commence à redescendre et la tétanie va reprendre. Et chaque fois qu'il parlera, nous avons retenu au moins 7 de ses phrases. Et chaque fois qu'il voudra respirer, il lui faudra se redresser pour retrouver son souffle, en se tenant debout sur le clou de ses pieds. Et chaque mouvement retentit dans ses mains en douleurs indicibles. Oh, c'est l'asphyxie périodique du malheureux qu'on étrangle, hein, et qu'on laisse reprendre vie pour l'étouffer en plusieurs fois. Cette asphyxie, il ne peut échapper pour un moment qu'au prix de souffrances atroces et par un acte volontaire. Et cela va durer 3 heures. 3 heures! Mais mourrez donc, mon Dieu! Je suis là au pied de la croix avec sa mère et Jean et les femmes qui le servaient. Et le centurion, un peu à part, observe avec une attention déjà respectueuse. Entre deux asphyxies, il se redresse et il parle, puis il dit « Voici votre mère. » Oh oui, chère maman, Marie, qui depuis ce jour-là vous avez adopté, vous nous avez adopté. Puis, un peu plus tard, ce pauvre bougre de Larron, hein, s'est fait ouvrir le paradis. Mais quand donc mourrez-vous, Seigneur? Oh, je sais bien, Pâques vous attend et votre corps ne pourrira pas comme les nôtres. Hein. Il est écrit, tu ne laisseras pas ton sein connaître la corruption, c'est au psaume 15. Mais mon pauvre Jésus, toutes vos plaies sont infectées. Elles le seraient d'ailleurs à moins. Je vois distinctement sur elles suinter le liquide blond et transparent. Puis il est écrit aussi au psaume 37, mes plaies se sont infectées et ont suppuré. Et puis là, il y a un essaim de mouches affreuses, de grosses mouches vertes et bleues, comme on en voit aux abattoirs et aux charniers qui tourbillonnent autour de votre corps. Et brusquement, elles s'abattent sur l'une ou l'autre plaie pour en pomper le sucre et pondre leurs œufs, et elles s'acharnent sur votre doux visage. Impossible de les chasser, par bonheur, depuis un moment, le ciel s'est obscurci, puis le soleil s'est caché, puis il fait soudain froid, et bientôt, c'est 3 heures. Seigneur. Oui, il est bientôt 3 heures. Et enfin, Jésus lutte toujours, et de temps en temps, il se redresse. Toutes ses douleurs, sa soif, ses crampes, l'asphyxie, et les vibrations de ses deux nerfs médians au poignet, là, ne lui ont pas arraché une plainte. Mais si ses amis sont bien là, son père, et c'est l'ultime épreuve, son père semble l'avoir abandonné. C'est son humanité qui parle, et il récite le psaume 21, « Eli, lama sabachthani. » mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il prie comme un vrai juif, comme nous. Nous prions. Il sait maintenant qu'il s'en va et il crie « Tout est consommé ». Oui, la coupe est vide. Puis de nouveau se redressant, poussant de nouveau un grand cri, il dit « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » Il est mort comme il l'a voulu, quand il l'a voulu. Loué sois-tu, mon Seigneur. Pour notre sœur, la mort corporelle, dit saint François d'Assise dans son cantique des créatures, oh oui, Seigneur, soyez loué pour avoir bien voulu mourir. Car nous n'en pouvions plus. Maintenant, tout est bien. Dans un dernier soupir, votre tête vers moi, lentement s'est penchée, droit devant vous. Oui, votre ventre, votre menton sur le sternum, et là, je vois à présent bien en face votre doux visage, détendu, rasséréné, que malgré tant d'affreux stigmates illumine la majesté très douce de Dieu qui est toujours là. Je me suis affalé à genoux devant vous, oui, baisant vos pieds troués, où le sang coule encore en se coagulant vers les pointes. La rigidité cadavérique vous a saisi brutalement. Vos jambes sont dures comme l'acier brûlante. Quelle température inouïe vous a donné cette tétanie. Jésus est en agonie jusqu'à la fin des temps. Il est juste, il est bon de souffrir avec lui et de le remercier de nous associer à son agonie. Ô Jésus, vous n'avez pas eu pitié de vous-même, qui êtes Dieu, mais ayez pitié de moi, qui suis un pécheur, un pauvre pécheur. Pauvre que nous sommes, dit Jean Tolère. Nous sortons sans cesse de nous-mêmes, absorbés par ce qui reste pour nous superficiel au niveau de nos sens. Ah, c'est une erreur. C'est même nous faire tort, nous blesser de nos propres mains. Ne crois pas pour autant que tu doives te dépouiller de toute image. Non, non. Il en est une qui doit se graver fortement en toi. Et c'est Jésus-Christ. Entre en toi-même, dans ton intérieur. Et va ainsi jusqu'au cœur de Dieu. Accueille et prends en toi cette image divine que Dieu se donne à lui-même de toute éternité. Entre toujours plus avant dans ce mystère de Dieu. Et cette image de Dieu, le Christ, s'imprimera plus profondément en toi comme dans un miroir. Elle pénétrera toutes tes facultés. Alors, que tu marches, que tu t'arrêtes, que tu manges ou que tu boives, que tu dormes ou que tu veilles, que cette image divine ne quitte jamais ton esprit, ton cœur, ton imagination, ô douce sainte face du suaire de Turin. D'après cette image, organise ta vie, dit Jean Tolère, tant au-dedans qu'au-dehors. Comme un peintre pour être fidèle à son modèle, le regarde attentivement avant chaque coup de pinceau, fais de même pour reproduire le plus exactement possible le Christ en toi. Plonge-toi en lui, en son mystère. Contemple-le. Contemple-le sans cesse. Lui, lui qui est l'image du Père. Et efforce-toi d'être fidèle à ton modèle. Oui, regarde-le. Comme Dieu. Et comme homme, considère son humilité et sa douceur. Porte partout présente à tes yeux cette image. Que tu sois au milieu des hommes ou dans la solitude, que tu sois occupé d'accueillir des gens ou à accomplir ton travail, que cette image te reste familière, comme si tu étais tranquillement assis dans ta chambre ou à l'église. Agis et parle comme si tu étais toujours en présence de Jésus-Christ. Réalise qu'il se tient là, tout près de toi, qu'il entend tout ce que tu dis, qu'il voit tout ce que tu fais, et même ce que tu penses. Abîme-toi dans la contemplation de ce divin modèle. Oui, ô Jésus, qui n'avez pas pitié de vous-même, qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous qui sommes des pécheurs, qui sommes de pauvres pécheurs.